Eh bien, bonjour frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette étude biblique par webdiffusion. Je viens de rentrer, comme vous le savez certainement, d'un voyage qui m'a amené en Afrique. En fait, non seulement un voyage, mais deux voyages. Un voyage juste avant la fête des tabernacles, où j'ai visité l'île de la Réunion, l'île Maurice, ainsi que le Rwanda. Je devais aussi visiter le Burundi et le Congo, mais suite à des problèmes de visa, je n'ai pas pu le faire avant la fête. Donc j'ai poursuivi mon voyage en France pour la fête des tabernacles, où tout s'est très bien passé. Et mon épouse et moi, nous avons passé la deuxième moitié de la fête au Québec, à Orford, où là aussi tout s'est très très bien passé. C'était pendant ce voyage que j'ai reçu la nouvelle que j'avais enfin reçu un visa d'entrée pour le Burundi, qui avait une durée très limitée. Donc pour pouvoir l'utiliser, j'étais obligé de repartir presque aussitôt après mon retour, afin de pouvoir passer une semaine avec nos frères et sœurs au Burundi. Suite à des troubles internes à cause d'une élection contestée, cela faisait 2 ans que je n'avais pas pu rendre visite à nos frères et sœurs au Burundi. Je voudrais commencer l'étude aujourd'hui en vous montrant quelques images et en vous racontant un petit peu certaines choses qui se sont passées pendant mon voyage en Afrique, les deux voyages en Afrique. Tout d'abord, vous voyez sur la carte ici que le Rwanda et le Burundi se trouvent en Afrique de l'Est. Ce sont deux tout petits pays, mais qui ont beaucoup figuré dans les nouvelles dans ces dernières années à cause des problèmes ethniques et le génocide qui a eu lieu surtout au Rwanda, mais même un petit peu au Burundi également. Une carte plus large vous montre l'endroit où se trouvent ces deux petits pays, et c'est là où j'ai rendu ces visites pendant ces deux voyages rapprochés. Tout d'abord, je suis allé au Rwanda, voici la ville de Kigali, la capitale et la plus grande ville, une ville qui s'est beaucoup développée depuis ces dernières 20 ans que j'y vais. C'est devenu une des villes les plus modernes en Afrique actuelle. Il y a beaucoup de commerce, c'est une ville très propre, il y a des feux de circulation qui marchent très bien, ce qui est rare dans des villes africaines, et je pourrais vous en dire beaucoup plus à propos de Kigali. J'ai eu le temps surtout de voyager avec Monsieur Mondeli, notre pasteur associé au Rwanda, pour passer la fête des trompettes avec nos frères et sœurs du Rwanda réunis dans le village de Giti. Voilà notre salle de réunion à gauche de cette image, ainsi que le véhicule 4x4 qu'il nous fallait pour pouvoir y monter. Les routes ne sont pas très bonnes, c'est le moindre qu'on puisse dire, et nous utilisons le plus souvent des véhicules 4x4 pour y monter. Voilà une autre vue de notre salle de réunion qui sert très bien à nos frères et sœurs dans ce pays. Construit il y a quelques années, il y a assez de place non seulement pour des assemblées de Giti, mais aussi pour y passer la fête des tabernacles. Et vous voyez à droite de cette image des hangars construits en bois sur lesquels on va étendre des bâches, et ça va créer des tabernacles, des petites tentes où ont logé nos frères et sœurs là pendant la fête. Tous nos frères et sœurs au Rwanda logent dans des habitations vraiment temporaires, des tentes ou des bâches souvent, pendant la fête des tabernacles. Et ils sont ravis de pouvoir le faire. L'intérieur de la salle de réunion avec le pupitre et le panneau indiquant le fait qu'il s'agit bien de l'Église de Dieu Association Mondiale. Et vous voyez un peu à gauche sur la table, vous pouvez voir le petit panier qu'on utilise pour recueillir les offrandes. C'est très coloré, c'est très typique du pays, et cela m'a fait sourire à chaque fois que je le vois, parce que c'est très indicatif d'où on est quand on voit des choses de ce genre. Il y a aussi une cuisine qui a été terminée, et voici la cuisine à l'intérieur. Ce bois a été ramassé en préparation pour les repas de fête qui vont avoir lieu, et tout est construit avec des moyens du bord, c'est-à-dire que le four que vous voyez ici est fait avec de la terre cuite, et on y brûle du bois qu'on ramasse dans les environs, et c'est là qu'on prépare les repas pendant les jours de fête. Voici l'intérieur de la salle. Monsieur Mondelli qui est en train de faire des communications pendant la réunion de la fête des trompettes. Monsieur Mondelli sert très fidèlement depuis longtemps comme ancien et tout récemment nous l'avons nommé pasteur associé, c'est-à-dire que c'est lui qui agit comme pasteur pendant mon absence. En fait, ce qu'il fait déjà depuis assez longtemps, mais nous l'avons rendu récemment officiel. La chorale chante la musique spéciale à chaque fois. C'est très imagé, très coloré et très enthousiasmant puisqu'il y a beaucoup d'énergie et d'élan quand la chorale chante la musique spéciale. Voilà, pendant le repas, après, puisque à chaque fois qu'il y a un jour de fête, eh bien, nous nous efforçons d'offrir au nom de l'Église un petit repas qui ne serait pas rien d'extraordinaire pour les Occidentaux, mais qui représente un repas très apprécié pour nos frères et sœurs. C'est une des rares occasions dans l'année quand ils peuvent manger un petit peu de viande. C'est une chose que les gens du pays ne peuvent faire que très rarement lors des jours de fête. Et quand nous sommes ensemble pour célébrer les fêtes de l'Éternel, eh bien, nous pouvons leur offrir un petit repas de ce genre et leur offrir aussi un petit peu de viande de poulet ou de bœuf, ce qui est très très apprécié. Ici, les enfants sont en train d'apprécier le repas qui leur a été offert également. Ce sont des choses, la nourriture qui a été préparée la veille et gardée sans réfrigération, ce n'est pas possible avec autant de nourriture, mais nous préparons, les dames préparent les mets qui peuvent qui peuvent se préserver pendant un jour sans réfrigération. Le lendemain de la fête des trompettes, Monsieur Mondelli et moi sommes partis dans un voyage interne au Rwanda, un voyage qui a duré 2 jours, c'est un jour pour y aller, un jour pour revenir, pour visiter Madame Burume. Ici, vous voyez dans cette image la famille Burume pendant la visite de Monsieur Franks il y a 3 ans maintenant, si je me souviens bien. Et vous voyez qu'il y a Monsieur et Madame Burume au centre de cette photo et leurs 8 enfants. Malheureusement, quelques jours après la Pâque cette année, Monsieur Burume est décédé subitement et on ne sait pas de quoi il est mort. Plusieurs tests ont été faits à l'hôpital, on n'a pas pu savoir de quoi il s'agit, mais subitement il est décédé. Madame Burume, maintenant veuve, a 8 enfants à charge et ça représente une situation extrêmement difficile pour elle et pour les enfants, dont 5 sont encore à l'école et aux études. C'est une dame assez éduquée, elle a déjà fait professeur ou lycée, elle a l'éducation nécessaire pour le faire. Mais dans ce coin du monde, même ayant ces qualifications-là, même si elle réussit à trouver un poste, ce qui n'est pas sûr, son salaire ne serait pas vraiment suffisant pour élever tant d'enfants. Et comme elle a encore de petits-enfants à la maison, elle ne peut pas s'absenter pour travailler, laissant des petits-enfants à la maison. C'est donc pour cette raison que nous avons fait le voyage, environ 7 heures en 4x4, pour y arriver, en passant par une route qui loge le lac Kivu, pour arriver à la ville de Sienngugu, du côté rwandais, qui est juste en face de Bukavu, qui est la ville du côté congolais. Et vous reconnaissez le nom Bukavu, c'est une région où il y a eu beaucoup de problèmes de guerre, de mouvements de réfugiés. Les seigneurs de guerre aiment bien prendre cette région parce qu'ils peuvent s'enrichir avec les minéraux qui se trouvent dans la région. Si vous avez un smartphone, très certainement il y a des morceaux de votre smartphone, des minéraux qui sont venus de cette région. C'est une des régions où il y a de ces produits, ces matières premières qui permettent la fabrication de ces électroniques très avancées, ces produits électroniques avancés. Voilà donc la route qui était récemment refaite, elle n'est pas très mauvaise en fait, elle est assez bonne pour le moment, mais très sinueuse. Et finalement nous sommes arrivés à Sienngugu et c'est là où nous avons passé plusieurs heures avec Madame Burume. Tout d'abord je lui ai demandé d'expliquer ce qui s'était passé avec son mari ces derniers jours, comment ça s'est passé pour elle. Et puis nous avons parlé de ses besoins et des besoins de ses enfants. Ils ont besoin d'aide pour terminer la maison qui n'est construite qu'à moitié. Elle avait besoin même d'aide pour pouvoir manger, et elle avait besoin d'aide pour que les enfants puissent continuer leurs études à l'école. Elle était très rassurée et encouragée quand nous lui avons remis de l'argent qui était remis par un frère en Europe pour aider les nécessiteux, plusieurs centaines d'euros pour pouvoir vivre, pour pouvoir acheter de quoi manger. Ça va durer pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et nous lui avons remis une somme assez conséquente également pour payer les frais scolaires de ses enfants. Donc les enfants vont pouvoir terminer l'année scolaire et l'année à venir. Et nous avons commencé à étudier un projet également pour pouvoir finir la maison. Et très certainement, nous allons annoncer dans les mois à venir la possibilité pour ceux qui peuvent et veulent le faire de cotiser ou de participer à un fonds qui va finir la maison de la famille Buruma. Malheureusement, nous n'avons pu passer que 3 heures avec elle, puisque la frontière ferme à 6 heures, au coucher du soleil, mais elle est partie vraiment encouragée et rassurée par notre visite. Elle a même téléphoné à M. Mundali le lendemain pour dire que, depuis les 6 mois, depuis le décès de son mari, après notre visite, c'était la première fois qu'elle a dormi toute la nuit, sans se réveiller à cause des soucis qui pèsent sur elle, et sur sa famille. Au nom de l'Église, j'étais très heureux de pouvoir lui accorder cette aide. Et je tiens, frères et sœurs, à vous remercier de votre fidélité, parce que c'est dû au fait que nous travaillons ensemble, que nous unissons nos efforts, que nous sommes à même d'aider nos frères et sœurs dans ces régions qui sont dans des difficultés, qui ont des problèmes, que ce soit physiques ou autres, et nous sommes à même de venir en aide à ces frères et sœurs parce que nous travaillons ensemble et nous unissons nos efforts. Au nom de la famille Buruma, merci, et continuons de travailler ensemble pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs dans ces régions où la vie est vraiment très difficile. En revenant le lendemain sur Kigali, nous sommes passés par la forêt nationale de Nyungwe. C'est une forêt d'une beauté vraiment exquise. On voit souvent des animaux sauvages, même au bord de la route, comme ce petit singe que j'ai photographié juste à côté de la voiture. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et d'une certaine manière, effectivement, on est au bout du monde. Après la fête des tabernacles, donc après la visite au Rwanda, je suis parti vers l'Europe pour la fête en France, puis ensuite au Canada. Et 3 jours après notre retour aux États-Unis, en fait, oui, 3 jours, je suis reparti, non, 2 jours après, je suis reparti vers le Burundi pour pouvoir utiliser le visa avant que celui-ci ne devienne périmé. Je suis donc arrivé à Bujumbura, au Burundi, comme vous le voyez ici. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'il allait avoir beaucoup d'insécurité ou des problèmes? Le département d'État américain conseille fortement aux ressortissants américains de ne pas aller du tout au Burundi. Mais j'étais soulagé de voir qu'effectivement, en effet, il n'y a pas grand-chose d'anormal par rapport à ce que j'ai connu dans les années passées. La seule différence que j'ai vue était qu'il y avait beaucoup de camionnettes remplies de soldats, de jeunes soldats, lourdement armés, avec des mitrailleuses lourdes, avec des fusils lance-grenades, très en évidence. Évidemment, c'était une manifestation de la force pour, je suppose, à la fois rassurer la population et peut-être dissuader ceux qui pourraient avoir des intentions de vouloir déstabiliser le pays. Évidemment, je n'ai pas pu prendre des photos de ces groupes-là. En Afrique, il ne faut pas photographier ceux qui portent des armes. Alors, nous sommes partis de Bujumbura vers le nord du pays, où habitent la plupart de nos frères et sœurs, dans la province de Cibitoke. La route s'est beaucoup dégradée depuis nos dernières visites, puisque depuis 2 ans, depuis les troubles internes suite à cette élection contestée, il n'y a pas eu de travaux sur l'infrastructure. Donc la route s'est beaucoup dégradée. Et on voit au Burundi, encore plus que dans d'autres pays, on voit à quel point le pays est pauvre. D'après certaines sociétés ou ONG qui calculent ces choses-là, eh bien, le Burundi serait peut-être le pays le plus pauvre au monde. En parlant de produit national brut par personne. De toute manière, quel que soit le calcul, c'est toujours dans les 5 ou 10 pays les plus pauvres. Et effectivement, la vie est très difficile pour ceux qui vivent dans ce coin. Il y a beaucoup de choses qui sont transportées par des vélos. Comme vous le voyez ici, il y a même, on peut transporter des lits, on peut transporter des meubles de salon. C'est fou ce qu'on peut transporter sur vélo dans ce pays, par nécessité, puisqu'on n'a pas d'autres possibilités. On peut pas payer un camion pour le faire, on peut pas payer autre chose. Il faut faire vraiment au moins cher, et le moins cher, souvent, c'est des vélos. Ici, vous voyez un véliste qui est en train de transporter des bouteilles d'eau minérale en plastique vide, qui pour nous, ces bouteilles-là n'ont aucune valeur. Hein. On le jette, on va peut-être le faire recycler, mais on n'imaginerait pas qu'il y ait une valeur. Eh bien, la pauvreté est si extrême dans ce pays que même des bouteilles comme cela, même si ça vaut quelques sous seulement, eh bien, ça peut être le gagne-pain de quelqu'un. Et c'est le cas de ce monsieur qui a ramasser ces bouteilles, qui va les transporter à vélo au marché où on peut les réutiliser. C'est pas pour le recyclage, c'est pour pouvoir les réutiliser telles quelles. Et c'est courant de voir ce genre de choses sur les routes au Burundi. Voilà encore un autre cliché que j'ai pris où ces messieurs sont en train de transporter de bois de chauffage ou pour faire la cuisine, encore une fois à vélo. On voit même les animaux transportés à vélo, des chèvres, des moutons et ainsi de suite. C'est fascinant et surprenant de voir ce qu'on peut transporter à vélo. À chaque fois qu'il y a un véhicule qui s'arrête au bord de la route, dans les endroits où on est obligé de s'arrêter, ou parce qu'il y a un contrôle de police, ou parce que, pour une autre raison quelconque, il y a toujours des vendeurs qui arrivent à toute vitesse et qui essaient de vous vendre surtout de la nourriture, puisque c'est ça qui est le plus important dans ce pays en ce moment. Donc il y a le plus souvent c'est des femmes et des jeunes filles qui vont s'empresser de venir vous offrir des légumes. Comme par exemple ici, cette jeune femme est venue immédiatement quand notre véhicule s'est arrêté, plusieurs sont venus. Je n'avais même pas descendu le vitre du véhicule de mon côté, et pourtant elles se sont présentées là en espérant qu'elles pourraient gagner quelques sous en nous vendant des tomates ou d'autres produits. C'est très courant dans ce pays qui est très pauvre et où la vie est difficile. Nous poursuivons notre route vers le nord, ça c'est la petite rivière Rusizi au fond, qui relie le lac Kivu avec le lac Tanganyika, et soit dit en passant, c'est dans cette petite rivière où habite le grand crocodile Gustave, qui a mangé le plus de personnes que l'on connaisse pour des crocodiles. C'est le crocodile le plus meurtrier, on va dire, de tous les crocodiles qu'on a enregistrés. D'après certaines estimations, il a mangé plus de 300 personnes. Et quand on voit Gustave quelque part, eh bien, on passe les annonces même à la radio pour avertir les gens qui vivent au bord de cette rivière. La vie n'est pas du tout repos dans ces pays. On l'a mesuré à distance puisqu'on n'a jamais pu le capturer et c'est un des crocodiles du Nil le plus grand jamais recensé. Et comme j'ai dit, il aurait mangé jusqu'à 300 personnes depuis les dernières décennies. Les crocodiles peuvent vivre très longtemps. Nous arrivons finalement sur de très mauvaises routes, encore plus mauvaises que ceux qu'on aurait empruntées depuis Bujumbura, et nous montons sur des collines pour visiter une toute nouvelle congrégation à Gisumo, ici, où il y a une congrégation qui tout ensemble a émis le désir de s'associer à notre association. Donc, quand nous sommes arrivés, c'était la première fois qu'ils avaient rencontré un membre de l'église venant du dehors du Burundi. Et donc, ils m'ont accueilli par une chanson chantée avec beaucoup d'enthousiasme à l'extérieur de leur salle. Puis, nous sommes allés à l'intérieur où nous avons tenu une petite réunion de 45 minutes environ avec cantiques, prières. Et j'ai prononcé l'équivalent de ce qu'on appellerait une sermonnette, c'est-à-dire un petit message de 15 à 20 minutes, traduit au Kirundi, phrase par phrase, pour qu'ils puissent comprendre. Il y a en fait très peu de membres burundis qui comprennent bien le français. Je parle en français puisque les traducteurs peuvent le comprendre et c'est cela qui traduit. Les responsables comprennent, mais le reste doivent recevoir une traduction. Et voilà encore quelques personnes dans cette salle, on va dire, de fortune, qui a besoin d'aide. Vu de l'extérieur, voilà la petite congrégation à Gisumo, et vous voyez que le 3 a vraiment besoin d'attention. En fait, quand j'étais à l'intérieur, je regardais en haut, je voyais le ciel bleu. Donc, nous allons devoir faire le nécessaire pour les aider à avoir des tôles ondulées pour qu'ils puissent tenir les réunions comme il faut, même pendant la saison des pluies, ce qui est difficilement le cas maintenant. Voici une autre vue cette salle qu'ils ont construite eux-mêmes. Et vous voyez l'état du toit. Ce n'est pas pire que ce qu'ils ont comme maison. C'est-à-dire qu'ils ont construit comme là où ils habitent. Le plancher est en terre battue seulement. Et puis, ils construisent avec les moyens du bord, avec ce qu'ils ont à disposition. Personne n'a de l'argent comptant pour pouvoir payer des matériaux de construction. Ensuite, nous avons repris la route, la même route descendant cette fois-ci, pour aller dans une autre ville où il y a une nouvelle congrégation qui assiste maintenant à nos assemblées, à Rugombo. Nous voyons ici dans cette image leur salle d'assemblée, qui était une maison particulière avant, et qu'ils ont pu trouver un arrangement avec le propriétaire de pouvoir l'utiliser pour leur réunion sabbatique maintenant. À l'intérieur, encore une fois, accueillis par des chants, par des cris de joie, accompagnés par des tam-tams, des tambours, comme vous voyez ici, ils n'ont pas d'autres instruments de musique, mais très enthousiasmés de rencontrer un frère et un ministre venu d'ailleurs. Pendant l'assemblée, vous voyez qu'ils sont en train de chanter des cantiques, et j'ai vu à travers la porte qui était entrouverte qu'il y avait tous les enfants du voisinage qui sont venus. Tout d'abord parce que quand il y a une animation quelconque, eh bien c'est un divertissement gratuit. Ils n'ont pas de radio, de télé, de toutes ces choses que peuvent divertir nos enfants dans l'Occident. Et puis en deuxième lieu, de voir un homme à la peau blanche, ça aussi c'est très rare dans ces coins-là. Double divertissement pour ces enfants qui sont venus tout simplement pour regarder. Et ça c'est courant dans ces régions. Ça c'est la petite congrégation de Rugombo qui vous salue en vous faisant signe de la main. Et ils ont fait ça exprès en me demandant de dire que c'est leur salutation pour leurs frères et sœurs dans d'autres pays à l'extérieur du Burundi. Donc, vous voilà salués par vos frères et sœurs ici. Vous pouvez voir par leur façon, par leur habillement, vous pouvez jauger de leur niveau de vie et la difficulté qu'ils ont à joindre les deux bouts, comme on va dire, dans ces régions. C'est une chose, la vie est extrêmement difficile, encore plus à cause de l'instabilité qui règne depuis plusieurs années maintenant. J'ai tenu 2 jours de séance de formation pour les responsables. Il y a maintenant 5 congrégations au Burundi. Nous avons invité plusieurs responsables de chaque assemblée venir suivre des séances de formation. Et voici donc le groupe de personnes qui étaient présentes. Nous avons loué une petite salle qui était adéquate pour ces réunions. Ça nous a coûté l'équivalent de 9 ou 10 euros pour toute la journée. Donc nous avons non seulement j'ai fait des présentations à propos de la fidélité, à propos de nos priorités chrétiennes pour pouvoir servir dans l'Église, et j'ai répondu à beaucoup beaucoup de questions également. Nous leur avons offert un repas à midi. Ces personnes-là sont venues à pied. Certains sont venus ils ont fait environ 20 kilomètres à pied, aller simple, pour venir assister à ces séances de formation. Donc avant de les renvoyer chez eux, qu'ils fassent encore leurs 20 kilomètres pour retourner, eh bien nous voulions au moins leur offrir un repas, ce que nous avons fait ici. Et vous voyez un peu le repas, c'est surtout le denrée, le plus habituel, c'est le riz et le haricot. Avec le riz et les haricots, on arrive à créer une protéine, et c'est la protéine le plus courant. Nous avons pu cette fois-ci ajouter un petit peu de viande, ce qui est vraiment une fête pour eux. C'est très rare que la plupart des gens puissent manger cela. Ça coûte tout simplement trop cher. Le jour du sabbat, nous étions tous ensemble réunis dans la salle à Mugina. Et voilà les cinq congrégations réunies. Nous étions environ de 400 personnes. Ils étaient au-delà de 430 pour la fête des tabernacles cette année. Et presque tout le monde était présent pour cette assemblée sabbatique. J'ai prononcé un sermon à propos du sabbat, le quatrième commandement, le sabbat de l'Éternel. Pourquoi c'est toujours en vigueur, comment l'observer, et ainsi de suite. Le sermon a été traduit phrase par phrase en kirundi, et a été, d'après ce que j'ai pu voir, très apprécié par les frères et sœurs. Les cantiques qui ont été chantées pendant l'assemblée, les cantiques sont reconnaissables. Si vous les entendiez, vous allez savoir quel est le cantique, bien que la mélodie divague un petit peu de temps en temps, puisqu'ils n'ont pas d'accompagnement enregistré. Donc, avec le temps, il y a une évolution dans la mélodie, et nous avons discuté de comment on peut remédier à ça en leur procurant un accompagnement musical qui serait enregistré. Et puis, une dernière photo des frères et sœurs qui sont au Burundi, plus de 400 maintenant, qui observent le sabbat, qui observent les fêtes, et qui sont très heureux de pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que leur petite vie dans leur coin perdu en Afrique de l'Est. Ce sont des gens qui sont pour la plupart analphabètes, ce sont des gens qui vivent de ce qu'ils peuvent cultiver, ils vivent dans des conditions très rudimentaires, et pourtant, ils comprennent l'évangile du royaume de Dieu et ils attendent impatiemment le retour de Jésus-Christ. Avant de terminer avec le voyage, je vais simplement dire en guise de détail intéressant qu'en revenant, le trajet de l'avion nous a amené entre Bagdad et Téhéran, donc sur au-dessus des terres qui ont été ensanglantées par des guerres très récemment, et encore aujourd'hui, Daesh n'est pas très loin de là où on était. Et nous avons survolé aussi Yerevan, et à côté de Yerevan, à quelques kilomètres seulement, il y a le mont Ararat. C'est sur le mont Ararat que l'arche de Noé a atterri. J'ai donc survolé l'endroit où la famille humaine a commencé à se redévelopper après le déluge. Quelqu'un m'a demandé « Est-ce que j'ai vu l'arche depuis l'avion ?» J'ai dû dire non. Rien de visible depuis l'avion, mais c'était intéressant pour moi de savoir que j'ai survolé cet endroit. La vie, comme vous avez pu le constater par ces quelques diapos, la vie est difficile pour nos frères et sœurs en Afrique. Peut-être le plus difficile, la situation la plus difficile, c'est très certainement au Rwanda et au Burundi. Où le niveau d'éducation n'est pas très élevé et où les gens vivent vraiment de ce qu'ils peuvent cultiver. Ils tirent de la terre ce qu'ils vont manger. Et s'il y a une mauvaise récolte, eh bien, ils vont pas beaucoup manger l'année après. Mais ce n'est pas seulement là que la vie est difficile. Les élections américaines sont dans les nouvelles aujourd'hui. Beaucoup de gens appréhendent qu'est-ce que ça veut dire maintenant le nouveau président élu aux États-Unis qui fait peur dans beaucoup d'endroits. Nous voyons qu'il y a le terrorisme dans beaucoup d'endroits qui, là aussi, fait peur, non seulement dans les pays éloignés maintenant, mais en Europe, dans le cœur de l'Europe, aux États-Unis. Il y a des gens qui meurent par attentat. Il y a l'instabilité. On ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir politiquement, économiquement. La vie devient de plus en plus difficile. Et même les gens du monde qui ne connaissent pas les prophéties bibliques, j'entends de plus en plus souvent des gens qui s'interrogent. Et ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce qui se passe, mais le monde va à la dérive maintenant. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment est-ce que cela se produit? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la vie est si difficile pour nos frères et sœurs en Afrique et pour le reste du monde en Afrique? Pourquoi est-ce que le monde devient si instable aujourd'hui? Eh bien, nous avons une bonne description de pourquoi c'est comme ça. C'est une description concise de l'histoire d'une humanité, et c'était écrit par un des prophètes de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 59. Regardons Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1, Je trouve qu'ici, c'est une description, comme j'ai dit, concise des problèmes de l'humanité. Comment nous en sommes venus à être là où nous sommes? Et pourquoi est-ce que les choses se dégradent encore aujourd'hui? Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort un vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. N'est-ce pas une bonne description de l'histoire d'une humanité? L'homme cherche égoïstement ce qu'il veut aux dépens des autres, et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. La guerre résulte quand il y a un homme ou plusieurs hommes ou une nation qui veut prendre quelque chose à leur voisin, et les souffrances sont le résultat. Nos frères et sœurs en Afrique, et nos frères et sœurs dans beaucoup d'endroits dans le monde. On peut dire même, nous tous maintenant, nous ressentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Et les effets que nous voyons ici dans Ésaïe chapitre 59 sont en train de s'aggraver, ça devient plus grave. Il n'y a plus de frein comme nous l'avons connu autrefois. Mais au milieu de cette situation, que ce soit au Burundi ou que ce soit dans l'Occident maintenant, nous devons nous efforcer de regarder au-delà de la situation présente, vers un avenir meilleur qui nous est promis. Dieu promet dans la Bible qu'il y aura un avenir meilleur. Et bien que nous soyons accaparés par ce qui se passe autour de nous, nous devons toujours garder nos yeux fixés sur cet avenir qui nous est promis. Nous voulons voir ce monde meilleur venir. Cela me rappelle l'histoire ou un parallèle avec la vie du prophète Ésaïe, dont nous avons lu la description de l'humanité il y a un instant. Ésaïe, qui selon la tradition juive était de la noblesse de son pays, a vécu en Judée pendant les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Ésaïe a vu, il a connu personnellement les horreurs de la guerre. Il a vu de ses yeux. En 701 avant Jésus-Christ, une grande armée assyrienne, envoyée par le roi Sennachérib ou Sankérib, un roi particulièrement cruel, a balayé la Terre Sainte. Sennachérib avait déjà conquis et assimilé les pays voisins au nord, la Syrie et Israël, et maintenant il frappait à la porte de la Judée. Ésaïe, chapitre 36, verset 1, dit succinctement, « Le 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. » C'est une phrase très courte, mais imaginons ce qu'il y a derrière cette courte phrase. Derrière ces quelques paroles étaient de longues périodes angoissées, de guerre et de siège, des semaines et des mois de bataille désespérée, dans des endroits comme la ville de Lachish. Lachish qui est documentée par des gravures de pierre dans le musée britannique à Londres. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce musée plusieurs fois. Là, dans ce musée, dans un texte écrit par Sennachérib lui-même, il prétend avoir pris 46 villes fortifiées et plus de 200 000 prisonniers. 200 000 prisonniers. Et rappelons-nous que le pays de Juda, la nation de Juda, était un petit pays. 200 000, ça représente un pourcentage très important de la population. Des stèles qui existent maintenant, qui ont été retrouvées et dont certains se trouvent dans le musée britannique à Londres, ainsi que des fouilles qui ont été faites sur le site de Lachish lui-même, nous permettent d'imaginer comment ont eu lieu ces batailles. Des armées entouraient des villes fortes, l'une après l'autre, les fermant à toute source de vivres et d'eau. Des nuages de flèches volaient par-dessus des murs, pendant que des assiégeants construisaient d'énormes rampes en terre pour surplomber les murs défensifs. Voici quelques bas-reliefs qui se trouvent dans le musée britannique à Londres et qui montrent très précisément le siège de Lachish au moment où Sennacherib a pris ses villes. C'est-à-dire ce que nous venons de lire dans Ésaïe 36, voilà les illustrations que nous avons de cette époque. Ce sont les Assyriens eux-mêmes qui ont préparé ces tableaux pour vanter leurs exploits. Ici, nous voyons sur cette image des soldats qui montent sur une rampe de siège pour surplomber le mur défensif de la ville. Nous voyons des flèches qui volent par-dessus les murs. Nous voyons des soldats fortement armés qui grimpent pour essayer de faire une brèche dans le mur de Lachish. Il y avait des machines de siège pour écraser et battre des brèches dans les murs afin de permettre l'entrée des soldats à l'intérieur. J'ai eu personnellement par deux fois l'occasion de visiter les vestiges de Lachish. Et il y a quelques années, dans une fouille archéologique, nous avons même travaillé avec M. David Ussishkin, un archéologue israélien, qui a dirigé les fouilles à Lachish pendant des décennies. Et ces fouilles, très importantes, ont permis de reconstruire comment les assiégés ont essayé, de manière désespérée, à renforcer et à rehausser leur mur défensif, puisqu'ils voyaient les assaillants construire leur rampe, et que ça devenait de plus en plus haut. Alors on construisait une rampe à l'extérieur, et on construisait aussi une rampe à l'intérieur pour essayer de renforcer, de rehausser le mur défensif. On peut imaginer l'angoisse des soldats à l'intérieur et des gens de cette ville, qui ferait village pour nous, mais ville à l'époque, l'angoisse qui les tenait au ventre quand ils voyaient venir ces assaillants qui étaient connus pour leur cruauté. Donc, on trouve encore aujourd'hui à Lachish, qui ressemble à cela maintenant, de nos jours. Ils ont refait un petit feu des fortifications pour montrer comment la ville était. Mais on retrouve également cette rampe. La rampe que vous voyez ici, c'est une rampe qui était construite par des Assyriens pour gagner un accès à l'intérieur de Lachish. C'est la seule rampe qui existe encore, qu'on peut voir encore de nos jours, qui a été construite par les Assyriens. Et à l'intérieur des murs de la ville, eh bien, vous voyez une autre rampe, une contre-rampe, qui devait essayer de monter les murs plus haut pour empêcher à ces assaillants d'entrer et de prendre finalement la ville. Pendant cette course contre la montre, les soldats et les gens de la ville ont tiré des flèches, jeté des lances, des pierres, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et on trouve dans le musée britannique, il y a même des pierres de lance. C'est très fascinant ce qu'ils ont trouvé pendant ces fouilles archéologiques. Mais tout cela était sans effet, en fin de compte. L'une après l'autre, les villes juives ont été prises. Sans doute, beaucoup d'amis, de connaissances, peut-être de membres de la famille d'Ésaïe, ont été prises dans ces assauts, dans la chute de ces différentes villes. Il a dû avoir des parents qui ont été tués ou capturés. Et la fumée de plusieurs de ces villes en feu, peut-être même Lachish, aurait été visible de Jérusalem. C'est pas très très loin. Ésaïe était à Jérusalem. Sans doute s'est-il tenu sur les murs et a-t-il vu la fumée monter de ces villes fortifiées qui avaient été prises et détruites par les Assyriens. Dieu a finalement délivré la ville capitale. Jérusalem était délivrée. Il est intervenu par un miracle et 185 000 soldats assyriens sont morts dans la nuit. Il y avait sans doute beaucoup de joie et de réjouissance du côté juif, mais tempéré aussi par le deuil et l'angoisse des pertes qui étaient lourdes. Sans doute il n'y avait pas de famille qui n'avait pas perdu d'amis, de connaissances, de parents qui avaient été tués ou amenés captifs pour disparaître définitivement, pour ne plus être revus. C'est dans ce contexte-là que Dieu a donné des prophéties pour encourager Ésaïe et pour encourager les Juifs qui étaient à Jérusalem à l'époque. Ésaïe pouvait prendre courage à cause des promesses divines d'un monde de paix qui devait venir et que Dieu avait communiqué à travers Ésaïe lui-même. Il avait donné ses prophéties par Ésaïe. Ésaïe pouvait les comprendre et il pouvait les partager avec d'autres personnes. Il n'a pas vu, Ésaïe, l'accomplissement de ses prophéties. Il n'a jamais vu l'accomplissement des prophéties qu'il avait données. Mais il savait qu'elles allaient s'accomplir un jour. Et cela devait être une grande source d'encouragement. Il s'est sans doute langui pour l'accomplissement des promesses qu'il avait préservées dans son livre, le livre qui porte son nom, Ésaïe. Regardons quelques-uns de ses prophéties. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, nous lisons Ésaïe chapitre 2, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Imaginez ce que ça devait représenter pour Ésaïe, qui avait vu la guerre de si près, qui avait perdu des amis, des membres de sa famille à la guerre, de pouvoir entrevoir dans l'avenir une époque quand la guerre n'existera plus. En effet, Dieu a fait comprendre à Ésaïe, par ses prophéties, qu'un roi, un grand roi, allait venir, appelé le prince de la paix. Et ce roi-là apportera la paix définitivement sur la terre. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Verset 5 plutôt. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince de la paix. Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ces prophéties ne sont toujours pas accomplies. Ésaïe ne les a pas vues accomplir, nous non plus, pas encore. Et pendant le temps que je vous parle, pendant cette étude biblique, en ce samedi 12 novembre, eh bien, des hommes et des femmes et des enfants vont mourir. Ils sont en train, peut-être maintenant, alors que je vous parle, ils sont en train de mourir de guerre, ou des causes, ou des effets de la guerre, petites et grandes. Au Moyen-Orient, Daesh est en train de tuer maintenant, peut-être Boko Haram, Al-Shabaab et d'autres. Ils sont en train de sévir et de tuer et de faire souffrir les gens. C'est ça le présent. Tout comme Ésaïe avait vu la guerre présente à son époque, nous le voyons à notre époque. Mais les promesses que Dieu a faites à travers Ésaïe, son prophète, ces promesses vont s'accomplir. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Dieu est zélé pour accomplir ses prophéties pour l'avenir. La Bible nous dit qu'il viendra un moment quand il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est une promesse de paix. Non seulement pour le pays d'Israël ou pour le pays de Juda, mais pour la terre entière. pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Afrique, qui en a tellement besoin, la terre entière. L'intervention divine mettra fin au conflit. Dans Ésaïe 26, verset 12, on lit « L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Dieu va finalement faire venir la paix. Ésaïe a même eu l'occasion d'entrevoir comment les ennemis traditionnels de son pays, la Syrie et l'Égypte, seraient des voisins paisibles entre eux, et que tous ensemble, ces trois pays qui étaient des ennemis, ils allaient tous les trois adorer le Dieu d'Israël. Ésaïe chapitre 19, versets 23 à 25. Ésaïe 19, versets 23 à 25. « En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. » Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Une route entre l'Égypte et la Syrie passerait forcément par Israël et Juda. En ce temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Encore une fois, imaginons ce que cela devait représenter pour Ésaïe. Ésaïe avait vu les Assyriens détruire, tuer, amener captifs des centaines de milliers de ses compatriotes. Mais Dieu lui avait donné la promesse dans ses prophéties qu'un jour, ces trois pays ennemis seraient non seulement amis, mais frères, et que tous adoreraient le Dieu d'Israël. Cela a pu être difficile à croire pour Ésaïe, sans doute, et des gens de sa génération, qui avaient vu tant de souffrances et de cruauté pendant leur vie, aux mains des Assyriens en particulier. Ils avaient des souvenirs et des cicatrices de la cruauté et des souffrances aux mains de ces envahisseurs, qui sont venus sans droit, simplement prendre parce qu'ils étaient plus forts. Peut-être a-t-il même semblé impossible à l'époque que ses ennemis détestés pouvaient un jour devenir des voisins paisibles. Mais c'est ce que Dieu avait prévu, et c'est toujours ce que Dieu prévoit. Ce sont, frères et sœurs, des paroles d'espoir et d'encouragement quand nous considérons les problèmes du monde aujourd'hui, des problèmes ethniques, des problèmes politiques, qui semblent impossibles à régler aujourd'hui. Et en effet, si ça dépend des hommes uniquement, sont effectivement impossibles à régler. Nous pourrions donner la liste des pays meurtris par ce genre de problème. Le Congo, le Burundi, Somalie, les Corées, le Pakistan, l'Afghanistan, qui était touché encore hier et avant-hier par des attentats, des pays en Afrique, en Amérique du Sud, qui sont troublés par les guérillas, des groupes comme Al-Shabaab, Boko Haram, Daesh, qui sévissent terriblement aujourd'hui, aveuglément également. Mais un jour, tout cela prendra fin. Et non seulement la guerre finira, mais les millions de gens qui ont souffert et qui sont morts dans la guerre et dans les problèmes ethniques et autres, eh bien ces gens-là auront une autre chance à la vie. Ils reviendront à la vie, dans un monde beaucoup meilleur. Et là, ils pourront connaître Dieu, et ils pourront connaître le plan de Dieu. Ils vont connaître non pas une vie écourtée par la haine, par la soif de sang, mais une vie marquée par la paix et par l'épanouissement. Ça aussi, Dieu l'avait révélé au prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Ésaïe 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. » Ça aussi, Ésaïe avait le privilège de l'entrevoir par ses prophéties. Au milieu de cette guerre et ces souffrances qu'il avait connues, Dieu lui a donné des visions de ces événements merveilleux qui vont venir. Et, par l'entremise d'Ésaïe, nous aussi, nous pouvons les entrevoir. Nous pouvons comprendre ce qui va venir. Le prophète Ézéchiel a également vu à l'avance ce moment incroyable dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Versets 13 et 14. Ézéchiel 37, versets 13 et 14. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le moment viendra quand la présence et l'action de Dieu sera incontournable. Ça va être visible pour tout le monde. Tout le monde va savoir que l'Éternel est vraiment Dieu. Des centaines d'années après la vie d'Ésaïe, l'apôtre Paul a également parlé de cette époque, cette période de paix, expliquant qu'elle sera là non seulement pour Israël et pour Juda, mais aussi pour toute l'humanité. Toute l'humanité connaîtra cette époque merveilleuse. Ça, nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, nous lirons un petit peu de verset 23 et puis le verset 26 également. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 26. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Finalement, la mort n'existera plus. Les souffrances n'existeront plus. La guerre ne sera qu'un souvenir lointain. Et nous connaîtrons, nous serons soulagés de toutes ces souffrances et ces terreurs. Ceux qui sont morts dans les villes fortes de Juda à l'époque d'Ésaïe, ceux qui sont morts dans les guerres récentes, nous avons dans plusieurs pays, hier, le 11 novembre, commémoré les morts non seulement de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, mais d'autres guerres également. Depuis quelques années, cette fête a été transformée dans plusieurs pays occidentaux. Ça ne commémore pas seulement la Première Guerre mondiale, mais tous les morts de guerre. Eh bien, tous ceux-là qui sont morts, et ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui mourront encore demain, dans les attentats suicides, comme ceux qui a eu lieu hier, avant-hier, à Afghanistan, eh bien, ils vont avoir une vie meilleure. Ils vont revenir à la vie, et ils vont pouvoir vivre leur vie dans la tranquillité et dans la paix, afin d'avoir une relation personnelle avec le Créateur. Les promesses de Dieu transmises par Ésaïe et les autres prophètes nous permettent de regarder au-delà des troubles de ce monde actuel. Nous n'avons pas à être troublés de trop par les élections, par les instabilités internes, par les nouvelles que nous entendons de guerre et de bruit de guerre, par les attaques terroristes et tout le reste. Nous n'avons pas à être trop troublés, un petit peu peut-être, c'est normal. Mais pas trop, parce que nous pouvons regarder au-delà de tout cela. Nous pouvons regarder au-delà de ce monde violent pour voir le monde promis par Dieu à venir. C'est ce que font nos frères et sœurs dans les pays troublés de l'Afrique. C'est ce que nous devons tous faire. Une paix ultime va venir. Et entre-temps, si nous regardons 2 Corinthiens chapitre 5, une chose à laquelle nous devons travailler actuellement, nous devons déjà commencer à prendre la voie de la réconciliation et y travailler. 2 Corinthiens chapitre 5, de Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Certaines versions le traduisent, il nous a donné le ministère de la réconciliation, un service de réconciliation. C'est vrai qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est la Bible. Mais nous avons aussi un service de réconciliation. Nous devons travailler à réconcilier les gens, non pas à les diviser, non pas à monter les uns contre les autres, mais la réconciliation, chercher à amener et à créer la paix entre les gens. Nous devons travailler à la réconciliation individuellement, tout comme en tant qu'Église, nous travaillons à réconcilier l'humanité avec Dieu. Nous prêchons cette parole de réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous pouvez le faire. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a expliqué pourquoi il est venu. Jean chapitre 10, verset 10. Et de manière ultime, c'est ce qui va se passer quand toutes ces prophéties d'Ésaïe et d'autres vont être accomplies. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Voilà ce que Dieu veut. Non seulement que nous ayons la vie, mais que nous ayons la vie dans l'abondance. L'abondance spirituelle avant tout, qui est le plus important, puisque cette abondance nous permet de comprendre ce que nous devons accomplir par cette vie, afin d'hériter de tout ce que Dieu veut nous donner. Frères et sœurs, tout comme Dieu a confié ces vérités précieuses à Ésaïe et aux autres prophètes, il nous les confie aujourd'hui à nous aussi. Ces vérités, ces prophéties qui vont être accomplies dans l'avenir. Nous devons garder cette connaissance vivante en nous. Elle doit nous motiver, elle doit nous stimuler à vivre chaque jour de manière à plaire à notre Père Céleste. Nous devons rester dynamiques dans nos cœurs et dans nos esprits pour chercher ce que Dieu met devant nous. Et nous devons travailler aussi ensemble pour partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Et comme j'ai partagé dans la lettre de nouvelles hier, nous arrivons tout doucement à toucher de plus en plus de personnes dans la langue française de par le monde. Et nous devons continuer de le faire aussi. Travaillons ensemble pour faire cela. Terminons en lisant Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est notre tâche de continuer de partager cette bonne nouvelle du royaume au monde entier, le plus loin possible, plus que nous pouvons le faire, et alors, quand ce sera fini, selon le jugement de Dieu, alors viendra la fin. Dieu nous donne, frères et sœurs, des promesses magnifiques pour l'avenir. Ça a dû être d'un grand encouragement pour Ésaïe pendant son vivant, de pouvoir, au milieu de la guerre et les souffrances, voir quelque chose de meilleur. Eh bien, la même chose devrait être vraie pour nous aussi. Nous vivons dans une époque troublée. Ça va s'aggraver avec le temps qui passe. Mais nous avons toujours ces promesses devant nous, et nous pouvons toujours lever les regards et voir ce que Dieu promet pour nous dans l'avenir. Un monde quand la guerre et la souffrance n'existeront plus.